bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons parler des Maraudeurs, le premier roman de Tom Cooper paru aux éditions Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique. Merci Tom d'être ici ce soir. Merci Francis à vous aussi d'être beaucoup. Là et d'assurer la traduction ce soir. Le premier roman de Tom Cooper se situe en Louisiane, 5 ans après l'ouragan Katrina, qui a évidemment dévasté la région. Nous allons suivre 7 personnages qui vont se relayer au cours du récit. Tom, pouvez-vous nous raconter le point de départ de votre roman?
What was the starting point for the Marauders, writing such a novel?
Well, there were many false starts, and the novel was originally set in South Florida, where I grew up as a boy, in on the outskirts of the Everglades. And it just so happened that when I started writing the novel, the Everglades that I wanted to write about, contemporary Everglades, no longer existed. It was a figment of my imagination. It was just a memory, because it's so different now.
En fait, il y a eu beaucoup de faux départs pour écrire ce livre. Je suis originaire du sud de la Floride. J'ai grandi à proximité du parc des Everglades, une région de marais et de marécages. Et c'est tout naturellement que j'avais décidé d'écrire sur cet endroit, le lieu où j'ai grandi. Et au moment où j'écrivais ce premier roman, je réalisais aussi que les Everglades que j'avais connus étant enfant n'existaient plus vraiment aujourd'hui.
And I guess a little bit of that nostalgia and a little bit of that sadness naturally transferred itself to writing about an ecosystem that was equally in peril and that was equally in a state of flux and change, violent change.
Et j'avais ressenti de la tristesse et de la nostalgie à l'idée de voir que cette région naturelle que j'avais connue dans mon enfance avait été beaucoup menacée, transformée. Et peut-être que c'est ça qui m'a donné l'envie de situer l'action de mon roman dans un lieu naturel, aussi beau, aussi intéressant et lui aussi menacé finalement par la vie, l'évolution des choses et qui se trouvait dans un état en flux, à savoir en train d'être transformé.
Flannery O'Connor said anybody who survives childhood has enough material for his or her writing life, and I will say that the older I get, the more sense that makes, because I was always fascinated with stories that took place in swamps and in bayous. I was always fascinated with pirates and pirate lore and searching for treasure, although that is a kind of MacGuffin of sorts, because it's not a treasure-hunting novel. But that is a kind of motif in the novel. So I think probably the beginnings date back all the way back to my childhood.
L'écrivain du Sud, Flannery O'Connor, disait que tous ceux qui ont survécu à leur enfance ont de quoi nourrir leur vie d'écrivain pendant le reste de leur jour. Et c'est vrai que force est de constater que pour moi, cette enfance que j'ai passée dans cet endroit particulier des États-Unis, le sud de la Floride, fait que j'ai toujours été attiré par les marécages, par les marais, par la faune, par la flore, par cet endroit naturel très particulier, lié aux pirates, aux trésors. Et c'est vrai que je crois avoir été marqué par cette enfance et il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'intéressait en tant qu'écrivain que de retourner dans ce domaine-là, ce domaine et ce lieu particulier.
Dans votre roman, il y a donc plusieurs personnages qu'on va suivre les uns à la suite des autres. Comment vous avez construit ce roman? Est-ce que c'est un peu à la manière d'un puzzle?
Reading your novel, we are following several characters. And did you make the novel look like a puzzle?
Everything I write is a puzzle to me. It's always a mess. It's if Francis saw what I was writing now, he'd probably get me on the first plane back to America and never talk to me again. I wish I were one of those writers who work in a very methodical A to Z fashion. But you know what? Part of me would dread that because it's a lot. It makes it seem like punching the clock in work. So it's the only way I work, and it's a great joy when things surprise you and they work out the right way. And it's a great frustration when you have days that you don't know what the hell you're doing. And I would say it's about 50-50.
Oui, moi j'ai le sentiment que tout ce que j'écris ressemble un peu à un puzzle que je suis en train de faire. Je n'ai absolument pas d'idée de ce à quoi le livre va ressembler. Et si mon éditeur voyait ce que je suis en train d'écrire en ce moment, la première chose qu'il ferait, c'est de me mettre dans un avion de retour aux États-Unis à perpétuité sans jamais m'adresser de nouveau la parole. Alors, ce qu'il y a de très exaltant quand on écrit comme ça, c'est qu'on est surpris toujours et qu'on découvre des choses chaque jour, que finalement, c'est le livre qui prend le pas sur l'écrivain. Et en même temps, il y a des jours où on est totalement désespéré parce qu'on a le sentiment de ne pas avancer ou de ne pas savoir à quel endroit exactement on se trouve.
Durant tout le livre, on sent qu'un étau se resserre. Il y a une tension palpable, un suspense aussi. Est-ce que c'était votre intention dès le départ de donner cette tension à votre roman ?
Throughout the novel, there is a tension rising. There is a suspense building up. Was it intentional to create such a dynamic in the novel? You know,
it was only intentional when I started revising. When I started revising, there had to be something that John Gardner, in The Art of Fiction, calls profluence, meaning not plot per se, but a thing that keeps you reading, a development in character. Each scene has a beat. So hopefully it wasn't too enslaved to the kind of genre conventions, but I was told by almost every editor who first read the book, this is a mess. It's an incoherent mess, and it needs to cohere around fewer characters.
John Gardner, plotfluence or profluence?
Profluence,
okay. En fait, c'est vrai que j'ai travaillé sur cet aspect-là du livre au moment où j'avais entamé des révisions une fois passé l'écriture du premier jet. C'est vrai que l'écrivain John Gardner disait que ce qui est important dans un roman, c'est la profluence, c'est-à-dire tout ce qui va faire en sorte que le livre se projette en avant, tout ce qui va le rendre dynamique. Et il est certain que quand j'écris, je crée toujours beaucoup plus de personnages que je n'en garde finalement. Et c'est en révisant le roman que j'ai fait le choix d'instituer cette tension. Au départ, les éditeurs qui avaient lu le premier jet me disaient on s'y reconnaît pas du tout, il y a beaucoup trop de personnages, ça n'avance pas. Et c'est fort de ces remarques que j'ai essayé de travailler dans ce sens-là, justement.
Alors justement, ces personnages, il y en a 7 qui sont, on va dire, les personnages principaux du livre. Est-ce que vous pouvez brièvement nous les présenter?
Could you tell us about the 7 main characters of the book? You know, the people who matter in
7.
The novel.
I don't even know if I remember the 7, to be honest with you. People
je
keep on asking
si
me.
Je me souviens des 7, yeah. Pour être tout à fait honnête.
I didn't know this was a quiz about my own. Okay,
je
let's
pas
see.
Que c'était 7. Un let jeu get, au get sujet my, de mon propre
let
livre.
Me get out my notes.
West Strange and his father.
I can help you if you want.
Lindquist.
Please help me.
Brady Grimes. The two brothers.
Yeah.
Cosgrove and Anson.
Sure.
That
you want
made
me to,
8 already.
Oh, you want me to tell you about
every... just a little bit about every one of them.
Okay. where to begin? Well, I guess...
Par où commencer?
The interesting thing about this book to me, and something that I've learned in France, being here has kind of rejuvenated the book to me, because people's reactions are quite surprising to me. And what's most surprising, perhaps, is the fact that many people seem to pick a different character as the main character.
Oui, ce qui m'a beaucoup intéressé pendant mon séjour en France, c'est de voir comment les gens réagissaient. Ça m'a vraiment donné beaucoup d'énergie et ça m'a fait voir le livre sous un jour nouveau. puisque souvent, selon les individus, ils ont un caractère préféré et ils ont surtout le sentiment qu'un personnage tient le vrai beau rôle.
Let me try to give a sentence per character to see if this is an exercise in brevity, right?
Je vais essayer de décrire chaque personnage d'une phrase.
There is Gus Lindquist, who many consider the main character. He is an out-of-work shrimper. He suffers from a mild case of Asperger's, and he goes looking for the lost treasure of Jean Lafitte in Barataria Bay and ends up finding something that is a little more than he bargained for. So he gets into a little bit of trouble. There's a young man.
Let me translate okay. that first.
No, I'm going to do all... If I have to do all eight at once, you have to do all eight at once. That's how this works.
Pour commencer, il y a le personnage de Gus Lindquist que beaucoup considèrent comme étant le personnage principal. C'est un pêcheur d'une quarantaine d'années. Il a perdu son boulot. Il est manchot. C'est un homme que l'on pourrait décrire comme étant victime du syndrome d'Asperger, à savoir au comportement autiste. Cet homme, il n'a jamais eu beaucoup de veines dans sa vie, et il s'est focalisé sur la possibilité de retrouver le trésor du corsaire Jean Lafitte, un corsaire français qui a aidé les Américains, ça c'est une note de bas de page, dans leur guerre contre les Espagnols dans cette partie des États-Unis, et qui a fini ses jours dans le delta du Mississippi et en Louisiane principalement, où il aurait donc enterré un trésor assez conséquent dans les marécages. Et Gus Lindquist est tout tendu vers cet objectif de retrouver ce trésor et de pouvoir du coup changer de vie.
There is Wes Trench, who is a late teens guy who was raised to be a shrimper in southern Louisiana, and he finds himself without the livelihood or the future that he was born into, and he and Lindquist cross paths at one point.
Ce que j'aurais pu dire la dernière phrase de Tom Cooper pour décrire Lindquist, c'est qu'à un moment donné, dans cette quête de trésor, il va tomber sur quelque chose qu'il n'est peut-être pas à même de pouvoir gérer. Et Wes Trench, donc le deuxième personnage, c'est un gamin de 17 ans, fils de pêcheur, qui a été élevé pour être lui aussi un pêcheur de crevettes, comme son père et son grand-père et son arrière-grand-père avant lui. Et ce garçon, il adorerait pouvoir continuer à mener la vie que des générations de Trench ont menée avant lui. Le problème, c'est que cet endroit change, que la pêche n'est plus ce qu'elle était et que la région est face à des défis. Non seulement il y a eu Katrina qui a causé la mort de sa mère, mais il y a aussi cette marée noire qui vient remettre en cause le futur qu'il avait imaginé.
There is Brady Grimes, the emissary for BP Oil, who is kind of a Svengali and chameleon, and he tries to bamboozle the people, the residents of this town, Jeannette, into signing negligible settlements that would ultimately screw them financially.
Il y a Brady Grimes, qui est un jeune homme originaire de cet endroit de Louisiane, cette petite ville qui s'appelle Jeannette, où en commun de vivre tous les personnages. Et lui, tout ce qu'il a souhaité dans la vie, c'est de fuir cet endroit. Et il y revient, mandaté par la compagnie pétrolière BP, qui a envie de négocier avec les familles de pêcheurs pour éviter d'aller en justice, et qui donc est... Et on l'envoie là parce que c'est un gars du coin et qu'on compte sur lui pour que les gens acceptent, contre un chèque de quelques milliers de dollars, de renoncer aux poursuites. Et donc c'est une sorte de caméléon. Il n'avait pas envie de revenir à cet endroit, mais on lui a fait comprendre qu'on avait besoin de lui puisqu'il connaît ces gens, il connaît l'endroit, pour faire en sorte qu'ils acceptent une transaction qui évite des poursuites.
There is a bumbling criminal duo called Cosgrove and Hanson. They meet during a community service stint in New Orleans, and they kind of go on a wild goose chase looking for this fabled island of marijuana in Barataria Bay. So a lot of people consider them the comic relief, and they are by far the most true and realistic characters of the bunch in the novel. So realistic, in fact, I'm often accused of basing them on real people. And so realistic that people I know say, that's me, right? They're not, but...
Il y a un duo, deux sortes de pied-niquelés, Cosgrove et Hanson, deux pauvres gars qui n'ont pas eu de chance et qui se retrouvent en fait en Louisiane parce qu'ils ont tous les deux été condamnés à des travaux d'intérêt général pour des petits délits qu'ils ont commis et qui se retrouvent par exemple à démazouter les oiseaux touchés par la marée noire ou à aller repeindre les maisons de personnes âgées et qui, au fil de leur pérégrination en Louisiane, entendent parler d'une marijuana de qualité absolument exceptionnelle qui pousserait sur une île dans le bayou et qui se mettent en tête de mettre la main sur cet endroit particulier, et notamment sur la moisson qui s'y trouve et qui vont s'attirer beaucoup d'ennuis.
And finally, they're the Toup brothers, Victor and Reginald Toup. They're the Alpha and Beta brothers. They're both bad, but one is much more sinister and conniving than the other, which I think makes for an interesting combination. At any rate, they are the growers of said marijuana island, and they are growing it out in the Barataria to keep it sub rosa, to keep it secret. And all these people meddling and messing about in the swamp kind of puts some grease or mess in the cogs of their machinery.
Alors, Reginald et Victor Toup, ce sont deux frères jumeaux, tellement identiques dans le livre, dit Tom Cooper, que leur mère avait du mal à les reconnaître. Et ce sont vraiment deux psychopathes. Même s'il y en a un qui est plus gentil que l'autre, ce sont deux types qui, effectivement, utilisent une île dans le bayou pour faire pousser une marijuana d'une qualité et d'une pureté incroyables, mais qui font tout pour que personne ne s'approche de cet endroit et qui ont recours à tous les moyens, y compris les plus extrêmes, pour éviter que l'on mette la main sur le fruit de leur travail.
And of course, I guess all of this begs the question, where are the women? I get that every... So we might as well get that elephant out of the way immediately.
Et souvent, il y a une question qu'on me pose, c'est un peu comme l'éléphant dans la pièce. Une fois que j'ai parlé de ces sept personnages, on me demande, où sont les femmes?
There are women in the book. Unfortunately, they are ancillary characters simply because all this takes place in the bayou and it's shrimping and trawling oriented. And you just don't see many women doing that simply because it is a very physically demanding job that requires literally a kind of formidable physical presence. You don't see many shrimpers that are under 200 pounds, for instance.
Alors, il y a bien entendu des personnages de femmes dans le roman, mais c'est vrai que la plupart de l'action du livre se déroule dans le bayou ou en mer, et c'est vrai que c'est un monde d'hommes, que ça ne fait que traduire la réalité, c'est-à-dire que ce métier est tellement difficile physiquement qu'on ne croise que des pêcheurs et que même quelqu'un comme moi, ça les fait rigoler quand je leur dis que je vais venir sur le bateau pour travailler parce qu'ils sont tous super costauds et résistants.
You know, and I think sometimes the accusation is leveled on me that I don't like women. I think the opposite could be said, that I like them too much to have put them in a story.
En fait, parfois, des gens me disent, en fait, tu n'as pas mis beaucoup de femmes dans ton livre parce que tu ne les aimes pas. Et je réponds au contraire que je les aime tellement que je n'avais pas envie de les mettre dans de si beaux draps.
And I think it's ultimately they who prevail above everyone else, oddly enough.
Et je pense que dans le roman, même si ce sont des personnages périphériques d'une certaine façon, je pense que c'est elles qui finissent par avoir le dernier mot.
Donc au début, justement, vous disiez que la plupart des gens choisissent un personnage et le désignent comme étant le personnage principal du livre. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
When you said that somebody, everyone picks up a favorite character, this is what Mary Carlin did.
Oh, great. Hopefully it's one of the eight, and not one of like a ninth or tenth that I don't remember. It's Willie McNeil. What? Who is that?
Okay. No, it's West Trench.
Okay.
Et Je pense que Wes, effectivement, pour moi, se dégage du livre. D'une part, parce que c'est le personnage le plus jeune. Mm-hmm. Et c'est aussi celui... Et c'est aussi celui qui témoigne un attachement très fort à l'endroit d'où il vient.
And he feels a strong tie to the place he comes from.
Et vous pouvez nous parler de lui?
Could you say a few more things about Wes?
Sure. I think Wes, of all the characters, is probably closest to reality. Meaning, when I arrived in Louisiana, it was to teach. It was to teach in down in the bayou in a place called Thibodeau, a place called Nickel State. And almost all of the kids I taught were related in some way to that profession, the oil profession or the trawling profession. So I just heard many, many stories from them. Some of them would have to skip class and play hooky to help their parents out. It's a culture unlike any other. And Wes is kind of an emblem of that. He's not based on a specific person, but he's an amalgamation of all those students I came into touch with.
En fait, je crois qu'effectivement, si Wes est un personnage qui est autant remarqué par les lecteurs, c'est peut-être parce qu'il est certainement le plus authentique. Quand je suis arrivé en Louisiane, c'était pour y enseigner. Et pendant 5 ans, j'ai enseigné dans le Bayou, une petite ville qui s'appelle Thibodeau, dont la population est d'origine cajun. Et bien entendu, j'ai enseigné la littérature à des enfants de pêcheurs ou à des enfants de ceux qui travaillent sur les plateformes pétrolières, puisque ce sont les deux activités économiques de cet endroit. Et c'est vrai que c'est un monde qui ne ressemble à aucun autre. Les jeunes de cette région ont une grande maturité parce que très vite, ils sont confrontés aux dures réalités de la vie. Parfois, il y en a qui manquaient les cours pour aller filer un coup de main à leur famille. Disons que c'est une culture extrêmement différente du reste de celle de la Louisiane, et où les gens ont une forte identité. Et d'avoir côtoyé tous ces jeunes, d'avoir écouté les histoires qu'ils me racontaient, les histoires de leur famille, les difficultés qui étaient celles de leur père suite à la marée noire, je serais tenté de dire que le personnage de Wes, il est un peu composite finalement. Il est né de tous ces jeunes que j'ai connus. Donc il est certainement celui qui est le plus proche de la réalité.
And just a few more words about Wes is that I think the great thing about writing this kind of book, and I guess the great thing about writing a novel like this, is that you don't write about yourself. You get outside yourself. It would be very, very boring to me to write a thinly veiled autobiographical character. It would be almost torture. The point is to get outside yourself. I'm with me every day, you know, so it's like, can I get a break from this guy? Writing about such characters is a real opportunity and vacation, in a sense. And I often get, well, which character is most like you? And I would say none of them are very much like me. But I will say the character most unlike me, or I'm most unlike Wes, because he's a good guy.
Oui, en fait, ce que j'ai trouvé de particulièrement réconfortant et intéressant à écrire ce roman, c'était voilà, d'écrire à propos de ces personnages. Dont aucun ne me ressemble particulièrement d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce qui est formidable pour un écrivain, c'est de sortir de lui-même et de créer des personnalités, de créer des individus à part entière. Et moi, j'ai déjà du mal à me supporter moi-même chaque jour. Donc, c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien d'écrire sur des gens comme eux. Et certains lecteurs aux États-Unis ont essayé de savoir de quel personnage je me sentais le plus proche, ou lequel était d'une façon plus ou moins déguisée le reflet de ma personnalité. Voilà, et je réponds aucun d'entre eux. Et c'est vrai que sûrement pas Wes, parce que je ne suis pas aussi gentil que lui, ni aussi bon que lui. Et juste pour avoir une petite idée de l'écrivain qui est Tom Cooper, et parce qu'on vient de parler de West, voilà, je vais vous lire un court passage qui met à l'honneur ce personnage, qui est vraiment un personnage très très beau. Que voulait-il faire de sa vie ? Lui demandait souvent son père. Ce n'était pas vraiment une question, West le savait, mais une façon détournée de lui faire comprendre que d'une manière ou d'une autre, il était à peu près certain qu'il finirait lui aussi par devenir pêcheur. Comme son père, comme le père de son père et comme 6 générations de Trench avant eux. Son paternel ne disait pas ça par cruauté, il était simplement réaliste, et la réalité c'était que les gamins du Bayou finissaient presque toujours par devenir des hommes du Bayou. Autre réalité, Wes avait manqué tant de fois les cours cette année pour aider son père qu'il devrait redoubler sa première. Avec un peu de chance, il sortirait du lycée à 19 ans. Il en avait déjà aujourd'hui presque 18. La plupart de ses amis, fils de pêcheurs eux aussi, avaient déjà définitivement renoncé à leurs études pour travailler à plein temps sur le bateau familial. « Trop gogol pour l'école », tel était leur slogan. Un seul d'entre eux, Jason Talbot, avait continué grâce à une bourse étudiante décrochée parce qu'il jouait au football. Wes, pour sa part, n'était pas un athlète et ce n'était pas non plus un très bon élève. Ses meilleures notes, c'était en cours de littérature qu'il les avait obtenues, parce que M. Banksy, le bon samaritain du corps professoral, avait autorisé ses élèves à rédiger des nouvelles en guise de dissertation pour le dernier examen de l'année. « Tout le monde sait raconter des histoires », se disait Wes. Et c'était donc ce qu'il avait fait. « Tu as beaucoup d'imagination et une âme de poète », avait écrit M. Banksy au bas de sa copie, lui décernant un A, le premier depuis qu'il était entré au collège. Il en avait été fier, pendant un jour ou deux. Mais très vite, un vieux relent de pragmatisme têtu, hérité en droite ligne de son père, était venu le tarauder comme un diable sur son épaule. Il se voyait mal écrire « Monsieur Banksy pense que j'ai beaucoup d'imagination et l'âme d'un poète » dans une lettre de motivation pour décrocher un job. Dans un monde idéal, se disait Wes, il aurait eu plus de temps pour s'interroger sur son avenir. Mais avoir 17 ans dans la barataria, ce n'était pas la même chose qu'avoir 17 ans n'importe où ailleurs. Il y avait des types de 17 ans à Janet qui étaient déjà fiancés, certains même déjà pères. Dans son école, 2 filles âgées de 13 ans étaient enceintes jusqu'aux yeux, leur ventre tellement énorme qu'on avait dû les installer sur des chaises spéciales autour d'une table pliante dans un coin de la classe. Le prof de biologie, M. Hargis, leur avait dit pour plaisanter qu'il leur donnerait des points bonus si elles accouchaient en plein cours. « Ce serait instructif pour tout le monde », avait-il déclaré. Mais le fait est que Wes voulait être pêcheur, posséder son propre crevettier, gérer sa propre affaire. Son père avait construit son bateau à 18 ans et dirigeait une équipe de 3 matelots avant même d'en avoir 20. Le plan de Wes, dont il lui avait fait part, était de monter un business d'un genre nouveau, dès qu'il aurait fini de construire le sien à 2 bateaux. Il embaucherait alors quelques amis et ils vendraient leurs crevettes eux-mêmes, sur les docks, sans passer par les intermédiaires, les entrepôts ou les fournisseurs. Ils vendraient les crevettes les plus grosses et les plus fraîches du coin, quelques heures, quelques minutes seulement après les avoir pêchées. Tellement grosses que leurs clients n'auraient aucun mal à les dépiauter, pas comme ces crevettes misérables qu'on trouvait au supermarché. Avec Facebook et Twitter, il pourrait monter une opération, sauf que là, il s'adresserait aux amateurs de crevettes. Et au lieu de livrer les clients une fois par mois, il vendrait leurs marchandises tous les jours. « Crevettes les plus fraîches du monde, quai 89, 6 heures tapantes », annoncerait un SMS. Le week-end, il pourrait peut-être même faire monter des touristes à bord du bateau, des habitants de la Nouvelle-Orléans en goguette. $50 par tête et ils auraient droit à un petit tour de la baie. Ils auraient la possibilité de pêcher eux-mêmes ou du moins de voir de près comment on fait. Ils pourraient apporter leurs glacières et les remplir à ras-bord au lieu de payer les crevettes au kilo. Son père avait eu l'air de trouver que l'idée n'était pas mauvaise, ce qui l'avait surpris. À part tout l'aspect internet de la chose, il détestait les ordinateurs et les téléphones portables. « T'es sûr que c'est légal tout ça ?» avait-il demandé à son fils. « Pratiquement sûr, oui », avait répondu Wes. Son père avait hoché la tête et, chose rare, lui avait fait un compliment. « Faut bien l'admettre, t'en as dans le ciboulot, fiston. » Plusieurs fois dans l'année, Wes et ses copains se rendaient dans le vieux carré français de la Nouvelle-Orléans, où ils croisaient des garçons et des filles venus des 4 coins du pays et qui, même âgés de 2 ou 3 ans de plus qu'eux, leur paraissaient beaucoup plus jeunes, des tendrons, épargnés par les vicissitudes de l'existence. Ils ne s'étaient jamais fait arracher un œil par un hameçon comme Monty Blevins. Ils ne connaissaient personne qui se soit volontairement tranché 3 doigts de la main pour toucher l'assurance comme le père de Peter Arsinoe. Ils ne verraient jamais leur mère mourir noyée dans les inondations provoquées par un ouragan. D'ici 5 à 10 ans, ils seraient médecins, avocats ou profs, tandis que Wes traînerait toujours ses filets de pêche dans la barataria. Un jour, dans un avenir lointain, ils se retrouveraient attablés sous l'éclairage élégant d'un restaurant de Manhattan sans se douter une seule seconde que les crevettes qu'ils étaient en train de déguster avaient été pêchées par Wes. Des crevettes prélevées au bayou et transportées par camion jusqu'à la côte est. Wes, à ce moment-là, serait sans doute déjà marié et père de famille. Et l'idée était déprimante, mais il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Il aurait sans doute déjà le dos tordu, le moral à zéro et le cœur brisé, comme son père. Il espérait que non. Il espérait qu'il serait heureux de pêcher. Et il espérait que la baie serait alors redevenue propre, parce qu'il adorait la vie dans le bayou.
Justement, dans cet extrait, il y a une phrase, enfin tout le passage exprime ceci, et notamment dans une phrase particulière, qui est « Et la réalité, c'est que tous les gamins du bayou finissent presque toujours par devenir des hommes du bayou. » Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que Wes, il exprime cette fatalité-là ?
All the bayou boys tend to become bayou men. Is it still true today ? Is that a fatality in some way ?
Well, I don't know if it's a fatality. I think people want to work in a bayou. It can be a very rewarding and an adventuresome life. On the other hand, it's no longer a very tenable way of existence. So I don't want it to seem like a death sentence. It's not that. But unfortunately, these people are in the very unfortunate position that they want to make an honest living. They want to, and they're not looking to become rich. They just want to do what they are good at doing. And that's no longer feasible, which is a great tragedy.
En fait, je ne crois pas que ce soit une fatalité, parce que tous ces gamins, ils adorent l'endroit où ils vivent, leur travail, la nature, je dirais. Donc c'est quelque chose qu'ils voient d'une façon extrêmement positive, et je ne voudrais pas que ça apparaissent comme étant de ma part une sentence de mort. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui à cause des problèmes liés à l'environnement et à cause du monde dans lequel on vit. Le but de ces hommes et de ces jeunes, c'est de gagner leur pain sans s'enrichir particulièrement, mais de continuer à pouvoir mener une existence que les générations précédentes de leur famille ont pu mener. Et c'est vrai que pour eux, les choses sont rendues plus difficiles aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre, et que c'est vrai qu'il ne sera peut-être plus possible maintenant d'avoir ce mode de vie dans les années à venir, et c'est quelque chose d'extrêmement triste.
And you know, also, I mean, realistically, the idea of transplanting themselves and starting a new life entirely with a new set of skills is just unrealistic. It's not going to happen. Not only would it require a great deal of time, but money and resources. And they just don't have that. They are like many Americans and like many people in the world, they're living hand to mouth. It's paycheck to paycheck. So they don't have the luxury of mapping out their futures.
Et je pense que pour la grande majorité d'entre eux, il leur est impossible de s'en aller ailleurs, parce que je ne crois pas qu'ils auraient ni l'argent, ni les capacités à se réinventer. Comme la plupart des Américains et comme beaucoup de gens à travers le monde, on vit de la fin du mois à la prochaine fin du mois, et on a du mal à voir plus loin. Et je crois que ce serait très irréaliste d'imaginer que ces gens qui ont toujours vécu dans un endroit comme celui-ci puissent se réinventer, travailler ailleurs, déménager. À défaut même d'en avoir l'envie, je ne suis pas sûr qu'ils en auraient les moyens.
Un des aspects importants dans votre livre, c'est donc cet héritage familial. Donc c'est les liens familiaux qui sont notamment très bien représentés dans les rapports de Wes et son père. Mais il y a aussi ceux de Lindquist avec sa fille et aussi ceux de Grimms avec sa mère. Est-ce que vous pouvez nous parler de des rapports familiaux dans votre livre ?
There is a kind of familial legacy throughout the novel. You know, Wes with his father, Lindquist with his daughter, and Grimms with his mom. It sounds like they are passing on things to their children. Could you say a few words about that? About, you know, the family legacy in the book.
Yeah, I do think that each of the characters, this is not something I think about that often, but now that you mention it, of course, that there is that length and that motif throughout the book. And I think if there is any recurring impulse among the characters, it's to cleave themselves from the past in some way. In other words, Wes sees his father becoming increasingly embittered and angry to the point that it's affecting his health adversely. So he doesn't want to become that, but he's already graying. He's already got gray hair at 17. Lindquist's daughter has the same problems he does, substance abuse problems, and she's quickly becoming mired in that problem. And then Grimes is probably the one who is most self-denying of all, the one who wants to obliterate his history altogether, who, in fact, is ashamed of where he comes from.
Oui, je crois qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose auquel je pense souvent, mais le fait que vous le releviez me fait dire qu'effectivement, c'est quelque chose d'important dans le roman, parce que tous ces enfants, d'une certaine façon, ils ont envie de se distinguer de leurs parents et de ne pas finir comme eux, d'une certaine manière. Ils ont envie de réagir et de se dire qu'ils auront une existence différente. C'est le cas de Wes, qui vit avec son père. Et c'est vrai que son père a connu tellement de difficultés. Bon, ils ont perdu leur épouse et leur mère au moment de Katrina. C'est d'ailleurs quelque chose que Wes ne pardonne pas tout à fait à son père. Wes voit son père se tuer au travail, ne pas réussir vraiment à s'en sortir. Et plus son père devient aigri, en colère, et d'ailleurs à tel point qu'il s'ennuie à sa propre santé, plus Wes a envie d'être différent de lui, voilà, de ne pas le suivre sur cette pente. Quant à la fille de Lindquist, bon, elle se débat avec certains problèmes. Bon, elle est victime d'une addiction, elle est toxicomane, donc elle a du mal à gérer la relation avec son père, un père auquel elle ne pardonne pas le divorce de ses parents. Et Brady Grimes, enfin, lui, c'est quelqu'un qui, alors qu'il revient mandaté par la compagnie pétrolière pour cette question donc, d'accord et d'entente avec les pêcheurs, retrouve sa mère, avec qui il n'a pas été en contact. Et lui, il a honte de l'endroit d'où il vient. Il a honte de ce milieu qui est le sien. Et toute sa vie, il n'a jamais cessé autre chose que d'essayer d'oublier d'où il vient, qui sont ces gens dont il est issu. Et tout ce qu'il souhaitait, c'était effacer ce passé. Et de revenir là, c'était quelque chose d'extrêmement douloureux parce que ça le ramène à l'endroit de ses origines. Et il n'a que mépris pour ces gens qui sont des gens qui ne sont pas très riches. Voilà, il les voit comme étant tout ce qu'il a voulu fuir.
Justement, Grimes, c'est un personnage qui a cru trouver le salut en partant. Et finalement, il fait une sorte de pacte avec le diable en s'associant avec la British Petroleum.
Grimes was willing, you know, to run away as fast as he could from Jeanette, and he is almost making a pact with the devil, coming back to Jeanette and trying to make a settlement with the families.
He is, and he's full of hate. I'm not saying he's an entirely bad person. There are many facets to his character. But hate is certainly not the opposite of love. And there's something about his past that is very problematic and causes him to hate this place in a visceral way, so much so that he returns to destroy it.
Oui, c'est vrai que ça n'est pas quelqu'un de mauvais, Brady Grimes. Il a plusieurs facettes, comme tout un chacun. Mais c'est vrai qu'il hait cet endroit, il hait ces gens, Et la haine n'est pas toujours l'opposé de l'amour. C'est vrai qu'il revient là contraint et forcé, et qu'il a tellement de ressentiment et de mépris à l'égard de cet endroit que finalement il revient avec l'idée de le détruire.
Et voilà, justement, la destruction du bayou de la Louisiane, c'est quelque chose de très présent dans le livre, évidemment parce qu'on se situe 5 ans après Katrina, et parce qu'effectivement, il y a cette marée noire. Est-ce que vous pouvez nous parler de la raison pour laquelle vous avez voulu situer le roman entre ces deux aspects, à la fois la marée noire et Katrina?
And why did you decide to make the novel happen between after Katrina, at the time of the oil spill? Did you want to create a dynamic between the two disasters?
No, I wish I were that clever.
Non, j'espère que j'aimerais pouvoir être aussi intelligent que ce que vous venez de dire.
No, this sounds absolutely ridiculous, but that's when I arrived. So I was like, okay, very self-centered way to go about writing, I suppose. But I go, okay, I arrived then, the story starts then.
En fait, c'est simplement parce que je suis arrivé en Louisiane à ce moment-là et que j'ai vécu tout cela. Donc, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire sur ce désastre écologique.
But I was aware of, and there's something, not to get too abstruse and academic about these things, but if in writing classes, which aren't popular here in France, I realize, and for good reason, but there's something called chronic tension and acute tension. The chronic tension in the book is, well, this disaster has already happened and people are suffering from post-traumatic stress disorder, and that's already going on. So trouble is already brewing, but trouble doesn't make a story. You have to have something acute happen, and the acute event is this oil spill. So they're already in dire straits, and that kind of throws them into topsy-turvydom.
Mm-hmm. En fait, ce que j'ai souhaité faire, et alors dans les ateliers d'écriture qui ne sont pas très populaires en France, et il y a de bonnes raisons à cela, on parle toujours de la tension que l'on va réussir à créer dans un livre. Et moi, la tension, elle était déjà là, puisque ces gens avaient déjà connu l'ouragan Katrina qui avait causé des tas de problèmes et qui les avait placés dans une situation très difficile. Donc quand je suis arrivé, tout ça était déjà en cours. Et puis arrive un événement singulier comme cette marée noire. Et voilà donc cet événement qui se déroule sur ce terrain déjà un peu propice, et ça rajoute finalement une tension supplémentaire. Et pour un écrivain, c'est ça qui est intéressant finalement, c'est d'accompagner cette double tension qui va faire naître chez les personnages des choses particulières.
Le personnage de Lindquist, vous en parliez tout à l'heure, il est à la recherche du trésor de Lafitte qui est supposé être englouti dans le bayou, parce que c'est vraiment ça, vous le dites même, c'est la capacité du bayou à engloutir les secrets. Le bayou, la Louisiane, ce sont des endroits, un état un peu à part aux États-Unis.
You say in the book that the bayou swallows everything, secrets and treasures. Do you feel like Louisiana and the bayou a very specific place in the United States apart from the rest?
Oh, absolutely. I feel that is a completely idiosyncratic place like no other. Although the Everglades and the Bayou do share similarities, they share just as many differences.
Oui, c'est vrai. Je crois qu'effectivement, la Louisiane est un endroit extrêmement à part aux États-Unis. Alors, bien sûr, les Everglades et le Bayou ont des points communs, mais il y a aussi des tas de choses qui font que les deux endroits ne se ressemblent pas.
And it's a shame because not only is it a unique ecosystem, but it's a unique culture. And that culture is unlike any other. So the disappearance of the ecosystem coincides with the disappearance and the fracturing of the Cajun and Creole cultures, which is just compounds the tragedy of it all.
Et en fait, en Louisiane, il y a non seulement un écosystème très particulier, le bayou, hein, qui ne ressemble à rien d'autre, et en même temps, il y a cette culture qui va avec et qui est une culture très particulière, la culture des Cajuns, donc ces gens qui parlent français, des créoles. Et c'est vrai que la menace qui pèse sur l'écosystème fait naturellement peser une menace sur la culture qui en dépend directement.
Sounds awful depressing, doesn't it?
c'est déprimant, non?
It's not a pick-me-upper, but, you know, it's not all, you know, dour business either. But I do think that it's a serious issue. I don't think it's a political issue not to want a part of the earth to disappear. It's not a Republican thing or a Democratic thing or a conservative thing or a liberal thing. I just don't want to eat poison. I don't want 3 or 4 football fields of earth to disappear daily, you know, from the swamp. And that's exactly what's occurring. That's very alarming, no matter who you are, I hope, especially if you have children. And I don't. So.
Et ça n'est pas un problème politique, hein, ça n'est pas un sujet pour les démocrates ou pour les républicains, mais la réalité, c'est que chaque jour, il y a une superficie égale à plusieurs terrains de football qui disparaissent. C'est-à-dire que voilà, l'endroit est en train de connaître des changements, comme dans beaucoup de lieux à travers le monde. Mais on sent très bien que le danger est là.
But don't worry, the aliens save them in the end. It does have a happy ending.
Mais ne vous inquiétez pas, à la fin, on est sauvé par les extraterrestres. Ça finit bien.
Donc, effectivement, sur ce côté, vous mettez le politique de côté. Mais par rapport au problème de Katrina, puis après de la marée noire, il y a quand même, on ressent chez vos personnages une certaine méfiance à l'égard du gouvernement. Et finalement, est-ce que vos personnages, ils sont pas des laissés pour compte de ce gouvernement?
But most of the people in the book, they feel abandoned by the government. You know, they
sure
they have a strong defiance. Do you feel like this is the case?
Absolutely. Absolutely. If there's any biographical element there, it's just a disdain, a genetic disdain for the just scalawags of Louisiana. Louisiana, more than any state perhaps in the United States, is rife with corruption and duplicity and backroom dealings, which I find fascinating for fiction. But if you're depending on the largesse of government, you are rightfully screwed.
Oui, en fait, c'est quelque chose que je ressens à titre personnel. Voilà, cette espèce d'aversion pour une certaine politique, et la Louisiane est de loin peut-être l'endroit aux États-Unis où la corruption a été la plus grande, où tout se passe sous la table. Et où c'est l'intérêt de quelques-uns qui prime sur l'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable.
But you try not to politicize things. You try not to get on a soapbox in your fiction because you seem like that ranting guy on a street corner with a sandwich board, you know, and like, oh, you know, with all these conspiracy theories. Hopefully, I didn't come across like that in the book.
Oui, moi, ça n'est pas même une question d'opinion politique à la manière de ces gens qu'on voit dans les rues avec des panneaux qui proclament ceci ou qui proclament cela.
I'm probably about a year away from that.
Peut-être que dans un an, on me retrouvera comme ça, mais c'est simplement dépeindre une réalité voilà, où les gens se sentent d'une certaine façon abandonnés.
Donc, dans votre livre, l'action se situe 5 ans après Katrina, mais l'ouragan et ses conséquences sont encore partout. Mm-hmm. Est-ce que c'était aussi une manière de dresser un bilan de ce qui s'était passé?
The novel takes place 5 years after Katrina, and the hurricane is still much there, present in the novel. Was it also a way for you to tell about the post-Katrina situation?
Sure. Well, that's very much omnipresent in daily life still, not only in southern Louisiana, but New Orleans, where I live now, so many people I know, so many, suffer from post-traumatic stress syndrome, and they self-medicate, just like the characters in this book. And it's a problem that I think that city is going to have for many, many years.
En fait, c'est simplement parce que toujours aujourd'hui, les traces de Katrina sont visibles à l'œil nu. La Louisiane, le Bayou et la Nouvelle-Orléans ne s'en sont jamais vraiment remises. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que beaucoup des gens qui ont vécu l'ouragan ne se sont pas remis psychiquement. Beaucoup sont traumatisés toujours par ce qui s'est passé à ce moment-là, prennent des médicaments, des anxiolytiques, et que c'est une situation sanitaire qui est absolument catastrophique.
Dans votre livre, il y a quatre personnages qui sont des criminels, enfin, alors à plus ou moins grande envergure. Est-ce que finalement le crime, c'est aussi un moyen de survie ?
Ce qu'on devrait dire aussi, pour pas que vous soyez atterrés, c'est que c'est un livre très drôle. Hein, parce que là, on plombe l'ambiance. Voilà. Mais c'est un livre où il y a beaucoup d'humour et voilà, c'est à l'image de la vie. Mary was saying that four of your characters are criminals. Is this a way for you to tell that Louisiana is a crime place, is a crime scene?
Well, who isn't a criminal these days in some way or another? We all download movies illegally and, you know, we all want to steal something.
Tous criminels aujourd'hui. On télécharge tous illégalement des chansons ou des films ou des séries, voilà.
There's always a goody two-shoes Pollyanna type going, no, no, I wouldn't do that. But seriously, if there were a bag of money in the middle of the street, I would totally take it. I give a little bit to charity, but I use most of it for myself and maybe a little bit for my mom. But
Oui, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, on fait tous des choses qu'on ne devrait pas faire. Voilà. Bon, moi, ça ne m'empêche pas de donner de l'argent à des organisations de bienfaisance, d'être gentil avec ma mère.
That's a joke. Most of it for my mom. 50-50. Even split. You know what? I think it has to do with this.
Why are criminals interesting people?
Yes, yes. Well, I do hang out with criminals, and I think they're good people for the most part.
En fait, moi, je passe pas mal de mon temps avec des délinquants, et ce sont des personnes très bien pour la plupart.
And yeah, they're good guys. And I do think that it stems from the government being corrupt and criminal. I don't think all of government is bad, but I think Louisiana is the bellwether of government gone amok and rotten.
Et je pense que beaucoup de cela a à voir avec le gouvernement, notamment de l'État de Louisiane, qui est le parangon de la corruption et de la mauvaise gestion des affaires publiques. Donc, quand on a un tel pouvoir politique corrompu et criminel, ben, ça ne peut forcément faire que des criminels tout du long.
Well, let's put it this way, too. Is the mayor, Nagin, who was the mayor when I arrived, is in prison.
Pour tout vous dire, le maire qui était le maire de la Nouvelle-Orléans quand je suis arrivé est en prison en ce moment, où il purge une peine.
And one of the many, many reasons why he's in prison, and this is so hilarious, I love it, he had his cousins.
Et l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il est en prison en ce moment, il a un de ses cousins.
Make the same public swimming pool 6 or 7 times. So they dig up the hole, line it, put the tile in, fill in the water. Okay, boys, time to put the dirt back in. So they got paid to do that 7 times, 6 times.
Et en fait, son cousin s'est occupé de la même piscine publique 5 ou 6 fois. Ils ont creusé le trou, ils ont mis le carrelage, ils ont rempli d'eau. Et après ça, ils ont cassé, ils ont recreusé. Voilà, la même piscine a été construite 6 ou 7 fois. Et tout ça, c'est les fonds publics qui étaient...
It's like something out of a Chaplin movie. It's unreal.
C'est comme un film de Charlot, en gros. Ouais.
And, you know, if you're paying taxes and you're getting ticketed and they're doing everything in their power to bilk you out of money, then
en
you're
fait,
gonna do the same.
Ça vous empêche pas de payer des impôts locaux, de vous faire coller des contraventions à tout bout de champ. Disons qu'ils savent vous pomper votre argent.
Absolutely. So I think that some criminality and rascality, there's a difference. I think there are rascals and criminals in the book.
Ce sont des, en fait, dans le dans le roman, il y a à la fois des escrocs et des criminels de ce point de vue-là.
Yeah, Cosgrove and Hanson are rascals, and the two brothers are criminals.
Voilà. Et par exemple, Cosgrove et Hanson, dont tout à l'heure Tom Cooper disait que pas mal de ses lecteurs aux États-Unis sont persuadés de les avoir rencontrés dans la rue ou de les connaître. Eux, ce seraient plutôt des escrocs à la petite semaine, alors que les frères Toup sont des criminels.
En France, vous êtes publié dans la collection Terre d'Amérique, qui incarne vraiment les voix de l'Amérique. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être un écrivain américain aujourd'hui?
So in France, you're publishing American fiction series. How does it feel for you being an American writer today in France?
Well, terrific. It's much better than the opposite, is not being here at all, not being read in France. It's been surreal, a surreal year. I first met Francis in May. He came to America to meet me and check out the bio and to make sure that I was not crazy, I guess, and to make sure that this place really existed. And he was accompanied by a group of journalists. And even then, I thought it was a bit surreal and new to me. And I've been here for 3 months now, and I've been to 15 cities these past 3 months, perhaps, and about 5 festivals. And it's been a life-changing experience, really. It's inspiring, and I would not have imagined this. I know that sounds awfully corny, but it was not in my imagination. It would have to be delusional to think, okay, I want to be big in France, though. Mm-hmm. That's going to happen. Not that I'm big or anything, but, you know, people do kind of, say great things to me, and the reaction has been very enthusiastic.
En fait, c'est formidable pour moi d'être un écrivain américain en français. De toute façon, c'est mieux que de ne pas être du tout publié en France ou de ne pas avoir de lecteurs. C'est vrai que depuis le mois de mars, quand pour la première fois des journalistes français sont venus me rencontrer en Louisiane, voilà, ça a été une formidable aventure de voir ce livre publié ici et de rencontrer des lecteurs dans des festivals ou dans des librairies. Là, je suis en France depuis 3 mois et je me suis déplacé dans une quinzaine de villes à travers le pays. Et j'ai participé à 5 festivals littéraires. Et c'est vrai que c'est formidable et très gratifiant, voilà, de voir la réaction des lecteurs français et de voir que ce livre vit d'une façon particulière ici.
I'm going to tell you a funny story about Francis right now. Sorry, Francis.
Il veut vous raconter une histoire drôle à mon sujet. Il s'excuse par avance.
Yeah, he doesn't know what I'm going to say, but
je ne sais pas ce qu'il va dire.
He's getting nervous. Look at the water. He's like Nixon on Frost. He's about to have a breakdown.
Je suis comme Nixon pendant son débat télévisé.
The first time I met Francis, we were to go out in the bayou on a swamp tour, and I drive up in the car, and there's this group of people, and I go, please not let this not be them, please, because they are all wearing very, very nice clothing, long pants, jackets. He's dressed just like he is now, essentially, maybe a scarf too. I don't see you with scarves that often, but they're all dressed, and I come out of the car looking like the biggest rube you've ever seen in your life. I'm wearing some dopey t-shirt with a cat on it, and I'm wearing shorts, and I've got very skinny, knobby legs, and so I must have looked like an infant. I might as well have been wearing a beanie propeller when I met him. It was quite embarrassing, but they really didn't seem to pay it very much mind. It was a fun experience for me.
Et en fait, la première fois que j'ai rencontré Francis, c'était en Louisiane, en mars dernier, dans le Bayou. On s'était donné rendez-vous là pour partir avec un vieux pêcheur sur son bateau. Et donc, j'arrive et je vois un groupe de personnes habillées, pantalons, chemises, vestes, etc. Je me dis, oh mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas eux. Parce qu'en fait, j'étais venu vêtu d'un vieux t-shirt avec un chat dessus. J'étais en short avec des espadrilles et avec mes genoux cagneux, ces gens ont dû me prendre pour un demeuré ou pour un enfant. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec ces Parisiens qui étaient très bien habillés et auprès de qui j'ai dû passer pour un imbécile.
Les droits des maraudeurs ont été achetés par les producteurs de Breaking Bad. Donc, c'est déjà plein de choses en perspective. Et quels sont vos futurs projets d'écriture ?
So the rights have been bought by AMC. Mm-hmm. What are your next writing projects in terms of fiction? Are you preparing something? Are you...
Well, I mean, most of my writing is going to be involved the show. I'm the only writer on it right now, the showrunner. So that involves a lot of work. But of course, I always work on fiction at the same time. I'm pretty good at doing a few things, and compartmentalizing is one of them. I need to have other creative outlets besides this one thing. So yes, I am working on a new novel. It's very unlike this. It's 180. I would say, you know, it is a woman-centered novel. Most of the main characters are women. I imagine that the readership will be mostly women, perhaps, hopefully. And I do think that the sensibility and the voice is similar, but the predicaments and the backdrop is a bit different. It takes place in New Orleans.
En fait, là, comme les droits pour la série télévisée ont été cédés à AMC, j'ai tenu à être associé à l'adaptation. Donc, c'est moi qui travaille sur le scénario. Donc, ça me prend pas mal de temps. Alors, AMC, pour ceux d'entre vous qui regardent un peu des séries, c'est ceux qui ont fait Mad Men, qui ont fait The Walking Dead, Breaking Bad. Et Tom disait que, voilà, je fais toujours plusieurs choses à la fois et je compartimentalise assez bien. Je suis en train de travailler sur un nouveau roman qui n'a pas grand-chose à voir avec les maraudeurs, si ce n'est qu'il se passe aussi en Louisiane, mais ce sera un roman urbain. Il se passe à la Nouvelle-Orléans et les personnages sont surtout des femmes. Il y a quatre personnages principaux, trois femmes et un homme. Et je pense que c'est un livre qui devrait beaucoup plaire aux femmes. Il disait à un autre endroit que ce sont des femmes qui font de vilaines choses.
You should say a few words about these four characters in your new novel.
And I think I'm starting to curse myself here because every day I'm on the verge of throwing this thing in the garbage. It's and then other days I'm like, oh my God, this is the best thing of all time.
Et en fait, il y a certains jours où je me dis que je vais tout jeter à la poubelle, et puis d'autres où je me dis que c'est vraiment ce que j'ai écrit de mieux.
So it's a love-hate relationship, but there is a male character named Burt Castle. He's in his mid-50s, and he is a widower, and he is running an ailing seafood restaurant in a quarter around when the oil spill occurs. And, of course, his business starts to go under, and it wasn't great to begin with already. They had a kind of, middling reputation.
En fait, l'un de mes personnages principaux, l'homme, c'est un type d'une cinquantaine d'années qui est veuf depuis peu et qui tient un restaurant de fruits de mer dans le carré français de la Nouvelle-Orléans. Son restaurant n'a jamais eu une réputation formidable, mais là, c'est vraiment la déroute totale.
There is a single mother named Siobhan, and she's in her early 20s, and she works at the restaurant that Bert owns.
Et il y a Siobhan, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle élève seule son enfant, c'est une mère célibataire. Et elle est serveuse dans le restaurant de fruits de mer dont je viens de parler.
There is a young woman named Ivy in her mid-20s who also works at the restaurant, and she's kind of a femme fatale type. And burlesque dancer on the side, and she befriends Siobhan, and they get into some trouble together.
Et l'autre personnage féminin, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle s'appelle Eileen.
Ivy. Ivy is in poison ivy. Yeah.
Ivy, elle a une vingtaine d'années. Elle travaille dans le même restaurant comme serveuse, même si elle travaille surtout dans un cabaret où elle fait un numéro de burlesque. Vous savez, c'est ce spectacle féminin un peu déshabillé. Et elle va se lier d'amitié avec cette jeune Siobhan. Et ensemble, elles vont s'entraîner dans des choses pas très catholiques.
And there is a girl named Paisley who is absolutely convinced that Prince is her illegitimate father, that she is the bastard daughter of Prince, and she happens to be a transsexual.
Et le troisième personnage féminin, c'est une transsexuelle qui s'appelle Paisley et qui est persuadée qu'elle est la fille illégitime du chanteur Prince.
So, in other words, I intend to alienate all the audience that I've earned from this one book.
Voilà. Et en fait, j'ai l'intention de semer la déroute parmi tous les lecteurs des maraudeurs quand ce nouveau livre paraîtra.
But that, of course, that's not the objective. It is very different.
Mais ce n'est pas mon but, bien évidemment.
I think they'll find the voice and heart identical. It is a companion book of sorts. It's just the obverse side of the token, the yin to the yang.
Et en fait, bien entendu, ça n'est pas le même livre que les maraudeurs, mais pour moi, c'est un peu le yin et le yang. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que les lecteurs vont retrouver les voix, vont retrouver la façon que j'ai de faire, et ce sera finalement que l'autre versant de la même histoire.
And there is a scene right now, which probably is going to get cut, but Cosgrove and Hanson have a very brief cameo, but they're never named as such.
Et il y a un moment donné, d'ailleurs, dans ce nouveau roman, où deux des personnages des maraudeurs, Cosgrove et Hanson, sont liés à ce nouveau roman.
I don't know if many of you have read the book, but there is one sequence in the novel where Cosgrove and Hanson just go on a complete tear in the French Quarter. They just go ape shit, for want of a better term, and they end up in the Shamrock, the restaurant in question that Bert owns, and yes, so they end up in that restaurant.
Pour ceux d'entre vous qui ont lu Les Maraudeurs, il y a un passage dans le livre où Cosgrove et Hanson sont à la Nouvelle-Orléans, et ils font une bringue pas possible, et ils se retrouvent dans le restaurant, le Shamrock, qui est tenu par Bert, cet homme d'une cinquantaine d'années, ce veuf. Voilà, donc c'est là où j'ai imaginé qu'il était possible finalement de faire en sorte que ces personnages se croisent.
I'm liking the reaction. Okay, this is edifying and encouraging. Voilà. Because last night it was just like.
Voilà. Donc là, c'est
it was
bien,
a long day though. It was a long day.
C'est bien ce soir parce que vous me donnez une réaction encourageante. Hier, j'ai senti que les gens étaient comme un peu embarrassés.
Francis and I took three different trains, a hovercraft, like a motorcycle and a sidecar, and who knows what other forms of transportation to get to this venue.
Voilà, et hier, pour aller à Brive, on a pris trois trains différents, dont le dernier remuait un peu comme quand on est dans un sidecar là, dans la petite cabine. Voilà, donc c'était peut-être aussi.
And that at the end of the reading, no kidding. At the end of the reading, he says, "Yeah, well, we'll go to our hotel now." I go, "How far away is it?" He goes, 2 hours.
Et donc hier soir, à un moment donné, je lui ai dit moi qu'on allait prendre la direction de notre hôtel. Il me dit c'est à combien de temps, et je lui ai répondu 2 heures, puisqu'il nous fallait aller de Brive à Bordeaux en voiture. Voilà. Yeah. Donc là, il ne m'a pas cru.
And I really thought he was kidding. And then we get on a train, but we start to get on a train once the car ride was. At any rate, we've had many adventures together. It's been a lot of fun. This is the last one for the time being.
Et on a connu pas mal d'aventures pendant cette tournée française. Et ce soir, c'est la dernière soirée en France, puisqu'il repart à la Nouvelle-Orléans vendredi matin.
Merci beaucoup.
Merci
à Tom
vous.
Cooper, merci à Francis Geffard. Peut-être pour terminer, un petit mot sur les 20 ans cette année de la collection Terre d'Amérique, Francis.
Oui, alors c'était le roman de Tom Cooper, c'était un peu l'occasion comme ça de fêter ses 20 ans. Et on a aussi publié un recueil de nouvelles, un gros recueil de 700 pages qui rassemble 20 auteurs emblématiques de la collection. Alors on a voulu, parce que c'est vrai que la littérature américaine est surtout connue pour la qualité des nouvelistes, et c'est vrai que lire un recueil de nouvelles, c'est comme d'être invité à un menu dégustation. Il y a plein de petits mets différents. Et ça donne une formidable idée du talent d'un écrivain. D'ailleurs, les premiers textes que Tom a écrits ont été des nouvelles. Et on a souhaité réunir 21 auteurs. Alors, il y a des tas de gens qui sont assez connus en France maintenant, comme Joseph Boyden ou Anthony Doerr ou Charles D'Ambrosio ou Sherman Alexie et Louise Erdrich et pas mal d'autres. Et de donner envie aux lecteurs d'avoir un panorama de la littérature américaine contemporaine à travers 21 voix, de faire en sorte que ce recueil soit vendu à un prix modique, c'est un grand format de 700 pages pour 14 euros, et de donner, voilà, comme ça, des pistes de lecture. Et parmi ces textes, 20 ont déjà été publiés dans des recueils de nouvelles parus chez Albin Michel. Il y en a eu 50 en 20 ans. Et l'autre est un inédit d'un jeune écrivain qui sera publié à l'automne 2017 et qui est une voix tout à fait originale et singulière. Un jeune auteur qui n'a pas encore 30 ans. Voilà, et c'était l'occasion de se projeter dans les années à venir, puisque Terre d'Amérique, c'est en gros une dizaine de livres par an. Donc, c'est un projet assez sobre, mais qui a fait connaître pas mal d'auteurs. Dans les succès derniers, il y a eu Le Fils de Philippe Meyer, ou Le Diable tout le temps de Donald Ray Pollock, ou Toute la lumière que nous ne pouvons voir d'Anthony Doerr. Voilà, donc c'est célébrer l'Amérique dans ce qu'elle a de meilleur à nous offrir.
Merci encore à vous deux.
Merci à vous. Merci à vous tous.
Merci. Enchanté. Merci.